Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette rencontre proposée par la BPI, vous l'aurez compris, dans le cadre donc du forum Environnement « Que faire pour demain ?» en compagnie de nos trois invitées prestigieuses. Nous allons expressément nous intéresser à la question des inégalités environnementales et de la justice climatique. Et vous pourrez bien sûr poser vos questions dans un deuxième temps à l'issue de notre discussion. Alors, réchauffement et dérèglement climatique, bouleversement des écosystèmes, atteinte à la biodiversité, pollution environnementale, augmentation des catastrophes naturelles, les conséquences en cascade et les dommages collatéraux qui résultent de la crise climatique entraînent des inégalités dites environnementales. Entre pays du Nord et pays du Sud, entre riches et pauvres, l'injustice face au réchauffement climatique et à ses effets s'est invitée, non seulement dans les débats, mais aussi devant les tribunaux. Migrants du climat, victimes directes ou indirectes des changements en cours, générations actuelles ou futures, des voix se font entendre pour interpeller, sensibiliser, pour obtenir réparation ou encore pour faire évoluer le droit dans le cadre de procès intentés contre des États, des personnes, des entreprises. Un monde en pleine mutation dans une quête donc d'égalité et de justice sociale et environnementale. Avec nous pour en discuter, Catherine Larrère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur.
Bonjour.
Avec le micro, c'est effectivement
c'est
mieux.
Mieux.
Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur notamment du livre écrit avec votre mari Raphaël, Le pire n'est pas certain, essai sur l'aveuglement catastrophiste, un livre paru chez Premier Parallèle. Judith Rochefeld, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'école de droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur du livre « Justice pour le climat, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne », un livre paru chez Odile Jacob. Et puis Joël Zask, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur à Aix-Marseille Université et auteur notamment de « Quand la forêt brûle, penser la nouvelle catastrophe écologique », un livre édité chez Premier Parallèle. Alors peut-être en guise d'entrée en matière, allons-y aussi sur une définition, en tout cas, qu'est-ce qu'on met derrière inégalité environnementale? Quand on dit inégalité environnementale, de quoi parle-t-on? Catherine Larrère.
Bien, de quoi on parle? Finalement, la chose est simple. Personne n'échappe au désordre des règlements climatiques et aux autres dérèglements de notre rapport à la nature. Mais nous n'y sommes pas exposés également, et nous n'en sommes pas également responsables. Alors, en gros, ce sont les plus vulnérables, les plus pauvres, les plus défavorisés, mais aussi les moins résilients, qui sont le plus exposés. On peut prendre deux exemples. Actuellement, la montée du niveau de la mer, qui est une des conséquences du réchauffement climatique, atteint particulièrement les zones tropicales et plus particulièrement les zones de delta comme dans le sous-continent indien, eh bien, ce sont donc à la fois des pays du Sud plus pauvres et dans ces pays du Sud, ceux qui habitent les endroits les plus exposés et qui ont le plus de mal à retrouver une autre façon de vivre, qui en souffrent. Mais c'est vrai aussi à l'intérieur d'un pays. Autre exemple souvent donné, c'est la tempête Katrina qui s'est abattue sur la Nouvelle-Orléans en 2005. Eh bien, bon, personne n'a échappé aux inondations et à la montée des eaux. Mais ceux qui en ont le plus souffert, c'est ceux qui habitaient les endroits les plus inondables, les moins désirables le plus souvent, et surtout qui n'ont pas pu suivre un plan d'évacuation qui était prévu pour les gens qui avaient une voiture. Donc, autrement dit, les Afro-Américains, les Latinos qui étaient dans les quartiers. Faut bien voir que la Nouvelle-Orléans est détrempée d'eau toute l'année. Hein, donc, qui étaient les plus inondables et qui n'avaient pas de voiture, qui soit sont directement noyés, soit ont dû attendre des secours qui ne sont pas toujours venus. Et en plus, et ça, c'est montré par des études, ce sont ceux qui ont mis le plus de temps à retrouver une possibilité de logement. Donc il y a ça, ce fait que entre les pays, à l'intérieur des pays, même dans un pays riche comme les États-Unis, les populations les plus défavorisées sont les plus atteintes. Et autre aspect, C'est d'autant plus injuste que ce sont ceux qui ont le moins contribué au dérèglement en cours. Et donc là aussi, il y a des statistiques qui montrent, c'est toujours des 80-20 hein, en général, 20% des plus riches, enfin des populations les plus riches contribuent plus hein, au dérèglement climatique que les 20% les plus pauvres. Et donc, on peut dire qu'il y a là une injustice et même une double injustice. Hein. Souvent, en anglais, il y a des termes qui disent « adding insult to injury hein, », comme une injustice qui s'ajoute à une injustice. Non seulement c'est injuste parce que c'est une inégalité qui crée des formes de domination ou qui renforce des formes de domination, mais en plus, c'est pour des choses dont ils ne sont pas responsables. Donc, il y a là une injustice énorme. Alors, il y a eu un gros travail fait par des économistes, même en France, pour essayer de mesurer ces inégalités. C'est difficile parce que ça ne se mesure pas comme on mesure généralement les inégalités en termes de revenus ou de patrimoine. Et que donc, est-ce qu'il faut une métrique ou est-ce qu'il n'en faut pas ? Mais en tout cas, c'est plus difficile. C'est plus important. Alors, on peut dire que ce n'est pas une nouvelle catégorie d'inégalités. On peut dire que c'est la dimension environnementale des inégalités sociales et qu'elle prend de plus en plus d'importance.
Donc un transfert de la charge environnementale en inégalité sociale. On va pouvoir en parler plus avant. Judith Rochefeld, donc sur ces questions d'inégalité environnementale, vous d'emblée, vous pensez à quoi ? On comprend que ces dégradations écologiques, hein, elles touchent tout le monde, ça c'est sûr, à l'échelle planétaire, mais dans cette situation globale, il faut différencier justement, alors différencier aussi géographiquement, hein, inégalité d'exposition, on parle des migrants du climat. Le dernier rapport de la Banque mondiale, qui remonte à je crois 2 semaines à peu près, fait état de 216 millions de migrants à horizon 2050.
Alors moi ce que je vois, parce que j'étudie plutôt les procès climatiques, la justice climatique, je vois deux types d'inégalités qui ne recoupent pas complètement ce que vient de dire Catherine Larrère, mais qui m'intéressent beaucoup. Par exemple, dans les procès qui ont lieu en Suisse, qui sont menés par aînés pour le climat, donc des vieilles personnes se revendiquant comme telles et s'estimant plus lésées par les changements climatiques du fait des canicules, par exemple, elles ont mis sur la table du tribunal précisément la dette historique des pays du Nord vis-à-vis, grossièrement du Nord, grossièrement du Sud, vis-à-vis des pays du Sud. Donc la dette dite de développement qu'auraient accumulé les pays du Nord pour leur développement bien plus avancé que d'autres. Et l'idée qu'elle mettait en avant dans un procès judiciaire, qui n'est quand même pas une idée banale, philosophiquement intéressante de la mettre là, c'était de dire en tant qu'État ou en tant que fédération extrêmement développée, vous avez une dette de responsabilité bien plus importante que d'autres pays et vous ne pouvez pas rester sans rien faire. De même, ça a été un argument devant les tribunaux néerlandais qui ont été en pointe hein, sur les procès climatiques. Quand le gouvernement a dit très bien, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la pointe de la baisse des émissions, mais notre tribut aux émissions mondiales n'est pas si intéressant que ça, puisque nous ne sommes pas le pays le plus émetteur, nous ne sommes pas le pays le plus peuplé. Il leur a été répondu que chacun devait prendre sa part et que, en tant que pays développé, il fallait également qu'il en fasse plus. Ça, c'est, je dirais, le premier type d'argument qui s'invite en justice et qui montre ce décalage nord-sud, si je vais très vite dans la synthèse, hein, qui est un prisme de lecture aussi des questions climatiques. Et puis, je dirais, le second type d'inégalité qui n'est pas social, mais qui s'invite beaucoup dans les débats et qui est très, très frappant, ce sont les inégalités générationnelles. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qui se passe, déjà, il y a une mobilisation symbolique et judiciaire très, très importante des plus jeunes. On a des enfants, là, 6 enfants portugais qui sont devant la Cour européenne des droits de l'homme. Aux États-Unis, on a 20 d'enfants et de jeunes adultes qui se battent avec une association à Washington Trust. On a beaucoup d'adolescents en Colombie ou dans d'autres pays. Donc c'est symboliquement important. Mais ce qu'il est encore davantage et qui devient juridique, c'est que cette génération demande des comptes à la précédente et fait reconnaître ce qui vient de se produire de façon tout à fait spectaculaire en Allemagne en mars dernier devant la Cour constitutionnelle, fait reconnaître des droits pour les générations futures. Comme si les générations futures ne devaient pas pâtir de ce poids qui leur retombe sur les épaules, et donc on a reconnu qu'elles étaient dignes de protection, comme si elles devenaient un sujet digne de protection dans cette, je dirais, agencement des urgences climatiques. Donc on voit en justice ces deux, je dirais, types de inégalités, non pas sociales, mais générationnelles et nord-sud, s'inviter dans les débats alors que ça n'est pas du tout leur place jusqu'à maintenant.
Catherine Larrère, vous vouliez dire quelque chose ?
Oui, je voulais préciser pour peut-être montrer à la fois le problème et sa non-reconnaissance. Bon, comme ce que vient de dire Judith, dans inégalité-justice, il faut rajouter le terme de responsabilité. Mais il faut bien voir que la responsabilité a deux aspects. Il y a, on pourrait dire, une responsabilité rétrospective, une responsabilité historique. Et c'est ce dont il est question quand il est question de dette de développement. Et puis, il y a une responsabilité prospective, qui est la responsabilité, la distribution des charges de ce qu'on va faire plus tard. Or, dès les premiers... Enfin, dès 92, hein, dès la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, on adopte un principe qui est le principe des responsabilités communes mais différenciées. Simplement, il peut être interprété de façon rétrospective, historique, ou de façon prospective. Or, ce qui s'est passé d'une COP à l'autre, c'est que, je dirais, bon, pour aller un peu vite et provoquer un peu la discussion, c'est que la responsabilité historique a été jetée par-dessus bord. On a arrêté de discuter, enfin, les nations réunies.
Hein, on peut le dire, ça remonte à 1992, hein, au sommet de Rio.
Ça remonte à 1992, mais justement, les calculs qui vont être faits prennent 1992 comme année zéro, ce qui est une façon de dire que ce qui est passé avant ne compte pas. Et donc, si on prend les accords de Paris, hein, ce qui a été adopté à la COP21 qui s'est réunie au Bourget, on verra que dans le texte, il est sans arrêt question du principe des responsabilités communes mais différenciées, et que c'est la question de la distribution des charges à venir, et que le terme de justice climatique n'intervient qu'à un moment dans, je crois, le préambule, et comme une sorte d'expression un peu folklorique à laquelle, dit le texte, sont attachés certains pays. Autrement dit, ce qui est cette dette de développement est considéré comme une concession régionale qu'on fait à certains pays, on l'admet dans le vocabulaire, mais c'est absolument pas pris en compte dans les accords. Oui, donc il y a eu vraiment une restriction de la responsabilité vers la façon dont on va se répartir les charges, et sans tenir compte de l'inégalité historique devant ces charges.
Oui, et au-delà de ça, dans vos livres, vous en parlez, Catherine Larrère, vous parlez aussi du dumping écologique ou environnemental, c'est-à-dire qu'ils voient les pays du Nord transférer vers les pays du Sud leurs activités polluantes et leurs déchets. Normalement, c'est interdit.
Oui, mais ils le
mais
font.
Ça a cours. Hein. C'est interdit depuis la Convention de Bâle, entrée en vigueur donc en 1992, et on continue. Donc il y a ces niveaux-là aussi. On sent bien que...
L'envie de faire peser sur les plus pauvres une charge supplémentaire dont on se débarrasse est une conduite assez habituel chez les plus riches.
Joël Zask, alors, inégalité environnementale, c'est vrai que, je le disais en préambule, ces conséquences du réchauffement climatique touchent tout le monde et toute la planète. Mais jusque-là, on voyait bien des zones géographiques plus ou moins impactées. On pouvait penser que les pays dits du Nord étaient préservés. Pas forcément.
Oui, effectivement, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit, mais j'apporterai peut-être quelques bémols ou en tout cas des nuances. D'une part, par exemple, l'idée de colonisation est une idée qui s'est développée à la fois en ce qui concerne nos villes, en ce qui concerne nos campagnes, en ce qui concerne en particulier le centre des villes jugées incontrôlables, par exemple par Napoléon III et Haussmann, hein, qui colonisent les centres-villes. Également par Napoléon III, si on pense aux Landes, hein, les Landes ont été colonisées. Alors, ce que je veux dire, c'est que simplement l'opposition Nord-Sud n'est pas forcément toujours très éclairante, parce qu'il y a du Nord et du Sud à l'échelle de mon quartier, à l'échelle de ma rue, à l'échelle de ma ville. Et aujourd'hui, les inégalités que je constate sous mes yeux sont vraiment peut-être largement aussi criantes que celles qu'on pourrait trouver lorsqu'on polarise Nord-Sud en mettant des milliers de kilomètres entre nous. Et je trouve ça important, justement, pour la conscience écologique et la justice climatique, de rapatrier aussi les problématiques dans sa maison, en quelque sorte, et sous son nez. Voilà, alors ça, c'est déjà une première chose. Et ce qui aussi m'a beaucoup frappée quand j'ai étudié les méga-feux, c'est que les pays du Nord, justement, comme vous le disiez, sont plus touchés, enfin, en tout cas, au moins aussi touchés que les pays du Sud, voire plus. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle un méga-feu, c'est un feu incontrôlable, c'est un feu qui est, on le sait maintenant, lié au dérèglement climatique, mais c'est aussi un feu qui est lié à la destruction des cultures du feu, c'est-à-dire des peuples qui pratiquaient des feux d'entretien dans les forêts, etc., etc. Alors, je vais très vite. Mais par exemple, les pays du nord de la Méditerranée ont tendance à plus brûler que ceux du sud. Pourquoi ? Parce que la déprise rurale, parce que la disparition de l'élevage, parce que la destruction culturelle, par exemple, des Landais ou des Méditerranéens, a, disons, rendu la forêt beaucoup plus vulnérable dans la mesure où elle est privée des soins auxquels elle est habituée depuis des dizaines de milliers d'années. Donc, je trouve ça intéressant de constater que les feux les plus ravageurs ont eu lieu, bon, alors, bien sûr en Amazonie, mais après tout, c'est quand même aussi un pays en voie, dans les développés, en Californie, bien sûr, le pays le plus riche du monde, en Australie, donc toute la région, et en plus, plutôt la région Canberra-Sydney que les autres régions plus désertes, la Sibérie, Irkoutsk, etc.
L'Espagne, le Portugal.
L'Espagne, le Portugal, toute l'Europe du Nord.
La Grèce.
La Grèce. Bon, voilà. Alors, voilà, la liste est très longue, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas justement les pays du Sud qui sont en train de brûler aujourd'hui, à part peut-être, alors je ferai une exception pour l'Indonésie, Sumatra, Java, etc. Mais là, c'est un peu comme en Amazonie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Daewoo qui met le feu. Et Daewoo met le feu pour... comme l'avait fait d'ailleurs John Ford en 1910 au Brésil, il met le feu pour planter du palmier à huile. Sauf que Ford avait souhaité implanter une forêt d'EVA qui n'a jamais donné d'ailleurs le moindre litre de latex. Donc voilà, c'est tout ça, ça permet de relativiser aussi dans la mesure où, comme ça a été dit tout à l'heure, finalement, je dirais quelque chose qui a à voir avec la conscience écologique tend à se mettre en place dans la mesure... on se sent aussi concerné à la première personne et aussi, du coup, le concernement peut provoquer une forme de responsabilité par rapport à son environnement. Donc, je pense que se rapprocher, en quelque sorte, de ces problématiques est peut-être bénéfique.
Oui, donc on voit bien, effectivement, quand on parle d'inégalité environnementale, on n'en est plus maintenant dans ce schéma complètement nord-sud. Il y a vraiment des subtilités parce que les dommages collatéraux et puis que les dommages liés au réchauffement climatique, à la crise climatique, prennent aussi une autre ampleur.
On peut penser à l'eau aussi.
Oui, on peut penser à l'Allemagne, à la Belgique.
Ou à la Bretagne. Enfin, à l'eau potable, tu vois. Il y a un problème. Je veux dire, on évite de boire l'eau du robinet en Bretagne aujourd'hui. Oui.
Parlez bien, bien près du micro. Judith Rochefeld, comment est-ce que la justice climatique, en fait, elle est devenue une sorte de passage obligé, une obligation, voire une arme, peut-être, pour lutter contre le réchauffement climatique, en tout cas lutter pour la préservation aussi de la planète, des écosystèmes, de l'environnement, et donc une arme aussi face aux inégalités environnementales? Ça remonte à quand, en fait?
Alors, on avait eu une première salve de procès, je dirais, qu'on pouvait qualifier de climatique dans les années 2005, mais plutôt dans des pays, États-Unis, Australie, très judiciarisés, c'est-à-dire où on a l'habitude de faire un procès pour régler des questions sociales qui, dans d'autres pays, ne sont pas réglées par cette voie, et parce qu'il y avait eu le protocole de Kyoto, ses applications, des discussions de certaines populations. Voilà. Ça, c'était la première salve, mais là, depuis, 2015-2017, c'est une... le terme est peut-être mal choisi, mais c'est une explosion de procès. On les chiffrait à 1500, 2000 par l'ONU il y a 2 ans, mais je pense qu'il faudrait actualiser le chiffre. Ce que je veux dire, c'est que partout dans le monde, ou dans beaucoup de pays du monde, il y a donc des procès climatiques, que ce soit contre l'État en question, par une partie de sa population ou des organisations non gouvernementales, ou comme en France, Grande Sainte, des collectivités territoriales qui se sentent en danger et dont le territoire n'est pas suffisamment adapté à ce qui va venir, ou que ce soit contre les grandes carbon majors, les entreprises, ou encore pour considérer une entité naturelle comme l'Amazonie en Colombie, comme une personne, et pour demander une protection pour cette personne, ce qui est une troisième voie qui est empruntée. Pourquoi ? Parce que après... le côté positif, je dirais, pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait aiguillon ? Après 2015 et la COP21, il y a eu de façon affichée, même si c'était déjà le cas avant, hein, mais des objectifs nationalement déterminés de chaque État, comme s'il s'était engagé à certains objectifs et que les populations, dans l'urgence, parce que d'autres moyens ne se mettaient pas en œuvre, trouvaient un appui pour aller en justice et rappeler à leur État qu'ils s'étaient engagés à baisser ses émissions de moins 25%, de moins 30% d'ici 2020 et puis d'ici 2030 et que ça ne se faisait pas. Ça, c'est vraiment, le premier aiguillon. Et puis, l'aiguillon négatif, c'est l'idée que, à part la violence, et le droit, c'est quand même le pendant de la violence, à part la violence, pour faire bouger les choses, il y avait une autre arme, une arme qui reste une arme marginale. On ne va pas régler toutes nos questions de politique publique avec des procès, mais qui avait cette arme possible. Et elle était... d'autant plus intéressante que depuis cette mise en place des COP, il existe un réseau mondial. Il existe un réseau mondial de citoyens, d'ONG, de juristes qui ont petit à petit forgé des arguments et que ces arguments ont circulé déjà dans certains États, qu'un État comme les Pays-Bas a accepté de les entendre, ce qui n'était pas du tout acquis, parce qu'on pourra y revenir, mais c'était une convention internationale, ou en tout cas un accord qui n'était pas forcément contraignant, dont les États pouvaient se dire qu'ils avaient une certaine marge d'application. Donc ça, on pourra y revenir, mais ça n'était pas facile de faire appliquer cet accord. Il y a eu d'autres arguments. Mais le fait que l'un des tribunaux saisis dise à un moment... Oui, je vais donner ordre, je vais enjoindre l'État de reprendre une trajectoire correcte par rapport à ce qu'il a promis, donc les Pays-Bas, a eu pour conséquence, pas tout de suite, petit à petit, en 5 ans, de mettre une étincelle sur toute la planète des procès et les arguments se sont enrichis les uns les autres et désormais... À défaut de tribunal international, parce qu'il n'y en a pas pour le climat, à défaut de tribunal international, l'analyse, par exemple, du Conseil d'État français, la plus haute juridiction qui juge l'administration, qui juge la politique gouvernementale, la décision du Conseil d'État est analysée le jour même, partout dans le monde, par ce réseau. Et il y a une pression sur les juges... qui est importante. Ça, c'est vraiment notoire dans ce domaine. Et puis, ce qui est important aussi, pourquoi cette arène peut être privilégiée avec une recherche symbolique de qui va agir, comment, selon quel argument, c'est aussi que c'est une arène de conscientisation. On a beaucoup parlé de l'affaire du siècle en France, c'est pareil dans beaucoup, beaucoup d'États. Le fait que des citoyens soutiennent ces actions, que des enfants soient représentés, que les générations futures soient représentées, voire en Belgique, des arbres ont tenté d'être représentés. On a toute une discussion, pour ceux qui veulent bien discuter, bien sûr, hein, toute une discussion autour de l'urgence climatique et de ce qu'il faudrait faire. Ça n'est pas forcément la meilleure arène, on peut tout à fait l'entendre, on peut tout à fait en débattre, mais il n'en reste pas moins que Dans un premier temps, c'était plutôt une arène de conscientisation. Et puis, quand les choses ont basculé, pour nous, par exemple, en novembre 2020, avec une décision du Conseil d'État, et puis début 2021 pour la commune de Grande-Synthe, qui se plaignait de ne pas être protégée et qui a été en partie entendue, eh bien, c'est devenu une arène vraiment d'action, de demande de compte sur la politique publique et la trajectoire de chacun des États par rapport à ce qu'il avait promis. Parce que j'entends beaucoup, et je terminerai là-dessus, on entend beaucoup le fait que ça n'est pas légitime, que les ONG n'ont rien à dire, que les citoyens n'ont rien à dire, que très bien, il y a des objectifs, mais que l'État est tout à fait élu démocratiquement, ça c'est un argument évidemment que tout le monde entend, et le maître de sa politique gouvernementale. Ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il a annoncé cette politique gouvernementale, et pour l'État français par ailleurs, il a mis en place le Haut Conseil au climat, qui est un observatoire scientifique de haute tenue, qui chiffre exactement la trajectoire qu'est en train de prendre l'État. Et il suffit de comparer ce qu'il a mis dans sa loi française pour appliquer l'accord de Paris et ce que dit le Haut Conseil au climat pour que le Conseil d'État se dise « ça n'est pas compatible ». Donc j'éliminerai, moi, cet argument qui est de dire c'est un gouvernement des juges, comment peuvent-ils juger une politique climatique et décider d'une politique climatique? Ils ne décident pas d'une politique climatique, ils évaluent la trajectoire de la politique climatique prévue par l'État et observée scientifiquement par un haut conseil créé par cet État.
Donc d'une arène de conscientisation, on est passé à une arène avec des décisions effectives, en tout cas des condamnations. Peut-être pour être précis pour notre public, justement, on parlait des Pays-Bas. Donc, décembre 2019, la Cour suprême des Pays-Bas a rendu définitif le jugement condamnant l'État néerlandais à réduire ses émissions de CO2 de 25% en 2020. On pourrait parler d'Irlande aussi, hein, d'ailleurs, qui a invalidé en juillet 2020 le plan climat du gouvernement. En France, donc, l'affaire du siècle, on aura l'occasion d'en parler. Grande-Synthe, avec des avancées, effectivement, puisque au 1er juillet 2021, vous me dites si je me trompe, hein, Judith Rochefeld, le Conseil d'État a donc donné 9 mois au gouvernement pour se donner plus de moyens de respecter ses objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Et il a condamné le gouvernement français à payer 10 millions d'euros d'astreinte pour ne pas avoir suffisamment lutté contre la pollution atmosphérique. Il faut rappeler que cette pollution atmosphérique, elle serait responsable de 48 000 à 67 000 morts prématurées par an. Donc on arrive à des condamnations. Alors 10 millions d'euros d'astreinte, ça veut dire que ça court. Tant que l'État français n'est pas rentré dans les clous, si je peux me permettre cette expression-là, les amendes courent.
Oui, c'est l'idée de faire pression sur des politiques en allant chercher dans le porte-monaie si ça ne se met pas en œuvre. Et effectivement,
donc là, on franchit un cap quand même.
Ah oui, c'est inimaginable. C'était inimaginable, à mon sens, hein, ou en tout cas, pour moi, c'était inimaginable il y a 2 ans d'avoir ce type de condamnation en France. Et je pense que d'abord, il y a une prise de conscience des juges eux-mêmes. Hein. Ils l'expriment. Et une prise de responsabilité. Ça n'est pas simple d'être dans cette position. Et par ailleurs, la pression internationale, quand bien même, je le répète, il n'y a pas de tribunal qui serait compétent, la pression internationale joue beaucoup. Et on a eu, pour finir la liste, mais là, on ne parlerait que des États européens, on a eu aussi le même type de constat en Allemagne. Mais c'est également vrai en Amérique latine pour la Colombie et désormais le Brésil, hein, qui a entamé un procès climatique aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Enfin, voilà, on a quand même beaucoup de continents touchés.
Catherine Larère, on a franchi un pas. Hein. C'est vrai que dans certains de vos livres, vous parlez par exemple des années 80 en mentionnant les États-Unis et en expliquant qu'il y avait déjà des procès aux États-Unis, donc pionniers par rapport à ces façons de justement de partir en justice. Mais c'était des procès parce que, par exemple, les habitations de certains citoyens étaient sur des zones polluées, etc. Là, on est vraiment dans un tout autre registre. C'est vraiment des procédures de collectifs, de citoyens, d'ONG et qui visent l'État. Et on est à l'échelle, effectivement, des engagements pris qui ne sont pas respectés.
Oui, on a changé d'échelle. Je pense que ce qu'il y a de commun, il y a deux choses qui restent et qui sont importantes. Il y a le problème de l'accès à la justice. Et ça c'est important parce que c'est pas toujours possible. Et du point de vue de la justice sur le climat ou de la justice climatique, de ce point de vue-là, le changement de règlements internationaux qui s'est effectué quand on est passé des accords de Kyoto en 1997, qui fixait une couverture qu'on ne pouvait pas dépasser globalement tel niveau d'émission, et puis qui laissait ensuite au marché, aux États, de le régler, ne donnait aucun accès facile aux sociétés civiles. Alors que la procédure qu'on n'arrive pas à adopter en 2009, mais qui va être adoptée en 2015, qui est celle dont parlaient les intervenants de la table ronde précédente, qui est des engagements nationaux, que ce soit qu'il y ait des engagements nationaux, permet justement d'intervenir pour dire que ces engagements n'ont pas été tenus. Donc de ce point de vue-là, ça donne un accès à la justice qui est important. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que justice, injustice, on peut aborder la question de deux façons. On peut avoir en tête ce qu'est un ordre juste et définir l'injustice par l'écart à cet ordre juste. Et puis, il y a, et c'est quelqu'un comme Paul Ricoeur le disait, et ça a été repris souvent, en fait, l'injustice est première. Le sentiment d'injustice est premier. Et je crois que c'est à partir de ce sentiment d'injustice qu'on essaie de voir quelle pourrait être la justice qui répondrait. Et je crois que sur les questions climatiques, et ça depuis les mouvements qu'on a dit de justice environnementale aux États-Unis dans les années 80, où on se mobilisait effectivement sur des questions beaucoup plus locales de pollution, mais c'était le ressenti d'une injustice très forte. Et ça, on le voit aussi sur la question climatique. Moi, je sais que j'ai eu un étudiant africain qui a fait sa thèse sur le type de justice dont qu'il fallait mettre en œuvre pour le changement climatique. Et c'était comme il ressentait, comme beaucoup d'Africains, l'injustice énorme qu'il y avait eu. Alors que les pays du Sud, pour aller vite, étaient le développement du Nord s'était fait à leur détriment, avait été pillé pour le développement. Au moment où ils arrivaient à la possibilité de se développer, alors on disait non, c'est pas pour vous, maintenant c'est fini, il faut se restreindre. Et c'est l'impression d'une injustice profonde. Et à ce moment-là, les recours de justice qu'on a ne correspondent pas. Et c'est ça qui me paraît important sur la justice climatique. Et c'est pourquoi ce n'est pas simplement une question de bonne distribution. C'est, je disais, accès à la justice, mais c'est aussi une question de participation. Qui prend les décisions et qui a accès à la prise de décision? Et ça me paraît important.
Joël Zask, je pense que ces mots injustice, notamment préjudice, traumatisme, hantise, perte irréversible, désarroi, désorientation, désolation, ça vous parle parce que vous nous les donnez dans votre livre « Quand la forêt brûle » et que c'est exactement ce que vous nous donnez à comprendre aussi à travers ces méga-feux qui touchent, on l'a compris, tout le monde, en tout cas des zones géographiques variées. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, des citoyens ou des collectifs sont partis en justice pour exprimer à la fois leur désarroi, leur sentiment et réclamer peut-être une justice face à l'injustice?
Oui, alors je pense qu'il y a effectivement énormément de mouvements sociaux et de mouvements de citoyens qui s'adresse à la justice pour faire avancer les causes de l'harmonisation entre leur vision de l'existence, leurs conditions de vie et leur environnement. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'effectivement, on voit un peu refluer parfois les conditions mêmes de notre existence. Et ça provoque une immense détresse. Je dirais que c'est peut-être un des dispositifs aujourd'hui, peut-être les plus prégnants et assez virulents des formes démocratiques de participation, je dirais, des citoyens à la chose publique. Et il me semble que, ça a été dit dans la table ronde précédente, qu'effectivement, le système de la redevabilité de l'État, de sa nécessité du gouvernement de rendre des comptes aux citoyens, et de tenir en tout cas en partie les promesses qu'il a faites dans son programme électoral, est précisément en cause aujourd'hui. Alors le problème, en général, si vous voulez, les citoyens arrivent assez aisément à déceler les mensonges de l'État. Enfin, on peut parler de mensonges, comme à Rennes, je crois qu'il y a vraiment un mensonge qui est très très brutal, non seulement à l'échelle des pays autoritaires, mais même à l'échelle des pays démocratiques. Il y a vraiment un mensonge environnemental qui est très fort, dans la mesure où, je dirais, la transparence sur l'action du gouvernement n'est pas toujours au rendez-vous, et dans la mesure où, encore une fois, les promesses sont des demi-promesses qui ne sont pas tenues, et les engagements, du coup, filent un peu dans les coulisses. Et donc, il me semble que la difficulté aujourd'hui, pour la plupart des citoyens, c'est justement d'identifier les situations précises, de les quantifier, les décrire, de se les communiquer, de récolter des données pour réclamer justice, justement pour identifier une situation où ce qui a été promis n'a pas été tenu. Et moi, je trouve que c'est très compliqué, mais ça fait vraiment partie du travail de la démocratie. Mais je pense que, aller devant un tribunal ou, demander la condamnation de telle ou telle entreprise ou de telle branche de l'État face à l'inaction climatique est du même ordre que occuper une zone promise à une dégradation très forte, à l'implantation, à une artificialisation des sols et choses de ce genre. Donc voilà, il me semble que penser à l'action juridique en faveur du climat comme une manière qu'a le public aujourd'hui de se constituer comme public, c'est-à-dire de se constituer comme partie prenante du problème climatique et comme en même temps, participant aux remédiations des défauts de la représentation ou de la démocratie représentative en général, me semble être vraiment très très important. Mais c'est une voie parmi d'autres, il me semble. Ça n'est pas la seule voie. Il faudrait pas tout. Tout ne va pas se régler devant les tribunaux.
Mais par rapport aussi d'autres actions. Par rapport au méga-feu, par exemple, les victimes ont quel recours, d'une manière générale?
Alors, ça dépend des pays, j'imagine.
Je ne sais pas, est-ce que vous avez des cas, peut-être, Parce que vous parlez beaucoup de ces victimes, en développant à la fois les drames matériels, mais aussi le ressenti, c'est-à-dire c'est quand même des atteintes aussi violentes faites à l'humain et au vivant, d'une manière générale.
Alors, par exemple, en ce qui concerne la Californie, il y a eu toute une procédure, justement, de la part des victimes des méga-feux qui ont dévasté, en particulier, Paradise. Ils ont tout perdu. Alors, le problème, évidemment, des victimes des méga-feux, c'est que la situation dans laquelle ils se trouvent est véritablement irréversible. C'est-à-dire qu'ils ne retrouveront jamais ce qu'ils ont perdu. Pas même des photos de leurs parents. C'est vraiment, comme vous le rappeliez, une situation vraiment de désolation. Alors j'en profite pour préciser un peu ce terme qui est biblique. La désolation, elle est distincte, et ça pose des problèmes juridiques d'ailleurs. La désolation, elle se distingue des catastrophes naturelles. Par exemple, un méga-feu n'est pas une catastrophe naturelle. Et en même temps, ça n'est pas non plus un châtiment divin, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est? La désolation, c'est... finalement, c'est cette situation qui est produite par le fait qu'une civilisation, un peuple, une culture a bâti quelque chose et puis finalement l'a dévasté. Et donc, c'est cette culture même qui est responsable, en quelque sorte, de la destruction de tout ce qu'elle avait construit. Comme on dit dans la Bible, dans Ismaël, ils ont travaillé pour du vide, quoi. Une fois que le feu est passé, c'est comme si les peuples avaient travaillé pour du vide, pour rien. Voilà. Et donc, la désolation, c'est une situation vraiment très déprimante, mais dont les humains sont responsables. Ça n'est pas, encore une fois, la nature qui se rébellerait, ni Dieu qui voudrait en finir avec cette espèce absolument indocile. Donc voilà, c'est un autre... Et donc ça pose des problèmes de responsabilité, effectivement.
Et vous parliez de Paradise. Il y a cette jeune fille, hein, Alexandria Villasenor,
oui, absolument,
13 ans, et qui du coup a vécu ces méga-feux dans sa ville, Paradise, en novembre 2018. Et elle est devenue l'une des porte-paroles de la jeunesse américaine pour le climat.
Absolument. Et donc, bon, là, effectivement, le méga-feu, enfin, le feu, d'une manière générale, est un événement, lorsqu'il sort du foyer, c'est un événement très violent. Et beaucoup de gens qui ont vécu des méga-feux ont renoncé à leur SUV et à un certain mode de vie, on va dire, un mode de vie très impactant pour le climat. Mais par ailleurs, en ce qui concerne donc les habitants de Paradise, un certain nombre de... D'abord, les victimes se rencontrent. D'abord, souvent, les victimes... Ça a été le cas aussi à Bormé-Mimosa. Les victimes sont rassemblées dans des logements de fortune, des hangars, des bâtiments municipaux, etc. Donc déjà, ils se rencontrent. Et ils vont former un mini-public qui, en général, se met à enquêter sur les causes, finalement, de leur détresse, sur les causes du méga-feu qui a ravagé tout leur environnement. Et là, en ce qui concerne Paradise, une responsabilité, finalement, a été reconnue à la compagnie de gaz et d'électricité de Californie, qui avait renoncé ou qui avait négligé d'entretenir ces lignes. Elles avaient laissé au contact, finalement, des broussailles. Il y a aussi une responsabilité qui a été... Par exemple, c'est le cas là récemment dans le massif des Morts. La responsabilité, alors bon, il y a un renvoi de responsabilité. Donc vous avez les agriculteurs qui disent que c'est les responsables du parc des Morts qui a mal entretenu la forêt. On a des cas comme ça aussi en Camargue d'ailleurs, c'est très intéressant. Et puis les responsables de la zone naturelle nationale des Morts disent bah non, c'est les agriculteurs qui mettent le feu, enfin voilà, etc. Donc on se renvoie la balle, mais en tout cas il y a tout ce travail d'assigner une responsabilité. Et encore une fois, ça ne va pas de soi. Je crois que c'est vraiment un travail d'enquête, un travail de coopération, un travail qui parfois est très très conflictuel, mais qui est la seule manière finalement d'aller en justice, en fait, enfin d'assigner. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en ce qui concerne les feux, ils sont tous d'origine anthropique, d'origine humaine, 98% d'entre eux, mais il y a environ 30% de ces 98% qui sont d'origine criminelle. Alors, là aussi, c'est intéressant d'interroger les responsabilités, parce qu'on va vous dire, oui, c'est vrai que le feu, il est criminel, c'est quelqu'un qui a eu le feu, par exemple, à Martigues, il y a eu des feux catastrophiques, parce que de la part d'un homme qui a voulu se venger de la mairie parce qu'elle ne lui a pas procuré un logement social. Bon, la responsabilité a été assumée, a été établie. Mais cela dit, les feux criminels atteignent évidemment des proportions hallucinantes du fait des circonstances que j'ai dit tout à l'heure, notamment du dérèglement climatique, des périodes de sécheresse à n'en plus finir, du stress hydrique et de l'élévation des températures. Sans compter, évidemment, que s'y ajoute la déprise rurale et choses de ce genre. Donc, finalement, où est la responsabilité? Et là, on arrive à un problème de responsabilité, je dirais, collective, en fait. Et donc, du point de vue de la justice, c'est très intéressant parce que on va pouvoir, justement, montrer que face à une responsabilité collective, il n'y a que des solutions collectives.
Judith Rochefeld, assigner en justice qui, quoi? En fait, on sent que là aussi, il y a une gradation et qu'il y a une évolution. Par exemple, on parlait de l'affaire du siècle. On peut peut-être rappeler que c'était en mars 2019 qu'un recours a été déposé par 4 ONG, hein, Oxfam, Greenpeace, Notre Affaire à Tous et la Fondation Nicolas Hulot, pour carence fautive auprès du tribunal administratif. Et donc ça, c'était contre l'État français. Voilà. Qui n'a pas respecté ses objectifs fixés de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Verdict tombé le 3 février donc 2021 et donc condamnation. Et intéressant, hein, une pétition signée à plus de 2,3 millions, je crois, de citoyens. Est-ce qu'on assigne aujourd'hui plus volontiers des personnes, donc, ou des compagnies, enfin, qui on assigne?
Alors, on assigne tout le monde, avec des arguments différents.
Mais pas forcément des présidents, des ministres, etc. Non. Mais on sent que là, il y a quelque chose qui se passe.
On assigne des gouvernements, ça, on en a parlé, c'est assez généralisé. Mais effectivement, on assigne aussi des entreprises. On a évoqué les carbon majors, une centaine d'entreprises pétrolières et cimentières puisque c'est une activité très émettrice aussi. Et ça s'est produit aux États-Unis, ça se produit aux Pays-Bas, ça se produit en Australie. Des personnes qui sont dans des fonds de pension ou dans des compagnies d'assurance qui assignent leur compagnie d'assurance ou leur fonds de pension parce qu'elles ne seraient pas correctes avec leurs engagements climatiques. Enfin, voilà. Donc on a vraiment à tous les niveaux des tentatives... Tout ça étant marginal, hein, c'est, encore une fois, on l'a dit, ça, c'est pas dans ces procès que ça va se régler, que tout va se régler, mais au moins, il y a des mouvements de mise en question. Ce qui est intéressant comme procès, ou peut-être plus intéressant que d'autres, c'est par exemple des procès qui ont eu lieu contre certaines carbon majors états-uniennes pour le fait d'avoir... tromper leurs investisseurs, tromper leurs consommateurs. Et Shell, aux Pays-Bas, est attaqué par des citoyens sur les mêmes arguments que l'attaque qui a eu lieu contre le gouvernement, c'est-à-dire en carence fautive, effectivement, dans une politique climatique qu'elle aurait dû endosser aussi. Donc on met là, je dirais qu'on est dans un parallèle qui est fait entre la grande carbon majors nationale et le gouvernement, elle aurait dû aussi avoir une carence fautive. Sous-jacent, il y a une critique, parce que sinon, ce ne serait pas possible. Alors déjà, il y a quelque chose qui rend possible, vous l'avez évoqué tout à l'heure, je pense que c'est très très important d'y revenir, c'est que avant, il n'y avait pas de rapport d'experts et de scientifiques qui chiffraient très précisément les émissions de gaz à effet de serre, entreprise par entreprise, période historique par période historique. Ça, c'est une possibilité maintenant de se fonder pour les personnes qui agissent sur des données scientifiques. Alors, on peut en discuter, hein, des données. Elles peuvent être utilisées dans tous les sens, remises en cause. C'est l'un des éléments du débat. Mais il est déterminant. Donc, Shell, dans ce parallèle, il y a un sous-jacent très important de la part de ceux qui agissent, qui est de dire que c'est aussi une des carbon majors qui aurait organisé une vérité alternative sur les conséquences des politiques industrielles que l'on suivait. Et si je peux conseiller... un livre, ce débat, un très beau livre, le titre est beau, malheureusement dramatique, « Perdre la Terre » de Nathalie Rich, qui est un journaliste du Washington Post qui a fait toute une enquête pour démontrer comment on avait installé une vérité alternative depuis les années 1970. Et cette idée est dans les procès. C'est-à-dire, la carence, ça viendrait aussi du fait... d'avoir énoncé des données qui n'étaient pas en relation avec une réalité qui est désormais démontrée, d'avoir fait perdre du temps aux investisseurs, aux consommateurs. Voilà. Donc, tout ça n'est pas encore réglé et ça n'est pas tranché dans toutes ces questions. La tromperie a été écartée. Voilà. Mais je dirais que ces grandes entreprises, non seulement en interne, elles peuvent être questionnées sur les politiques qu'elles suivent, mais également par des citoyens dans un parallèle. C'est ça qui me frappe avec les États.
Vous voulez ajouter...
Non, je voulais dire que le livre que Judith avait cité était quand même très critiqué, et pas uniquement par ses ennemis. Hein. L'idée qu'on a laissé passer une fenêtre d'opportunité, ce qui est quand même...
Non, c'était pas sur ce...
C'était
sur
pas
ce,
là-dessus, sur ce parce que, ça, il y a tout un problème de savoir comment agir, quand agir, et que c'est pas quelque chose qui passait comme la queue du Mickey sur au manège et qu'on n'a pas tiré au bon moment, quoi. C'est un peu plus compliqué que ça.
Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un livre qui est souvent mentionné, hein, « Perdre la Terre ».
Oui, non, sur l'enquête...
Exactement. Alors, on voit bien partir en procédure, partir en justice pour obtenir une justice climatique, c'est aussi potentiellement pouvoir faire évoluer les lois, le droit. Et dans ces évolutions-là, on voit bien qu'il y a aussi des actions pour donner des droits à la nature, faire advenir le concept de bien commun autre mouvement hein, de né du réchauffement climatique. Est-ce que c'est une, voilà, une solution juridique, Catherine Larrea ?
Alors, l'idée de donner des droits à la nature est ancienne, puisqu'elle remonte aux années 70, qui est le moment où toutes les nouvelles idées apparaissent. Mmh. Hein. Et c'est l'article d'un juriste, Christopher Stone, qui dit « les arbres devraient pouvoir plaider ». Il devrait pouvoir aller en justice. Et depuis, ça a fait beaucoup de progrès, hein, et dans, un peu dans la montée en échelle et en gravité que vous soulignez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est passé de revendications ponctuelles et essentiellement sur des questions de responsabilité civile, à des questions de responsabilité pénale, hein, puisqu'on est à parler du crime d'écocide, comme un crime comparable au crime contre l'humanité, et que d'autre part, un certain nombre de décisions ont été prises. Hein, on a beaucoup parlé du fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande, qui a été reconnu comme un sujet de droit. Puis on a parlé de la Colombie. Enfin, il y a tout un mouvement pour les droits de la nature. Et la semaine dernière, j'étais à des journées de travail où il y avait une juriste, Marine Calmet, qui est une avocate, qui s'occupe d'une association qui s'appelle Wild Eagle. Le droit sauvage, le droit pour le sauvage, et qui donc travaille sur cette représentation, la possibilité que des entités naturelles, alors ça peut être des organismes, ça peut être des ensembles comme un fleuve, hein, qui est, disons, un ensemble d'écosystèmes, soient reconnus comme des sujets de droit. Il y a tout un débat là-dessus. Alors je crois que c'est un peu différent de la question des communs, qui est là, ne revient pas forcément sur ce que remettent en question les droits donnés aux entités naturelles, c'est la sacro-sainte séparation entre les personnes et les choses, hein, puisqu'on essaie de faire monter des entités qui étaient considérées comme des choses et qu'on les fait passer du côté des sujets de droit. Alors que les communs, c'est une remise au message, Judith en parlerait beaucoup mieux que moi, donc je vais dire très peu de choses. Mais c'est l'idée, soit qu'il y a de l'inappropriable, c'est-à-dire des choses dont on peut avoir l'usage, mais qui ne peuvent pas être appropriées, soit l'idée que, il n'y a pas forcément une propriété individuelle. Que ce soit de personnes physiques ou de sujets de moraux, mais qu'il y a des collectifs. Et là, ça renvoie à des formes traditionnelles peu difficilement solubles dans le code civil, mais je crois que les juristes s'y emploient.
En tout cas, des biens qui nécessitent qu'on les protège, qu'on les préserve, qu'on les entretienne.
Protège, et l'idée que ce sont justement le terme de bien est un terme, ou de chose est un terme un peu difficile, parce que ce sont des choses qu'on ne consomme pas, mais qu'on peut dégrader. Donc c'est pas
et qui reste essentiel pour le vivant, voilà. Pour les écosystèmes, pour la préservation de la planète.
Et que donc on va collectivement les conserver.
Judith Rochefeld, sur ces questions-là.
Oui.
Alors là, on a parlé de deux choses. Hein. C'est à la fois le concept de bien commun et en même temps, il y a aussi la notion de crime d'écocide. Hein. On aurait pu aussi citer Valérie Cabanès. Hein. Voilà, exactement.
Oui, dans bien commun, même si le bien, il faut le mettre entre guillemets, c'est l'idée qu'on reconnaît qu'il y a un intérêt commun. C'est-à-dire aussi que on a collectivement une interrelation avec cet écosystème. Et je, pour ma part, hein, je suis plus en faveur de redessiner les interrelations que d'ériger des personnes en face de personnes. Et dans ce qu'on a fait, par exemple, le fleuve Guani est vraiment un très très bel exemple parce que derrière le grand geste de personnification hein, qui est donc arrivé par une loi néo-zélandaise mais au bout de 100 ans de discussions houleuses avec les tribus maoris qui le demandaient.
Donc pour reconnaître que ce fleuve était une entité en fait, une personne.
Qui était une personne parce que... Il y a une certaine cosmogonie, représentation de leur part, comme une sorte d'aïeul, même si c'est autre chose. Mais ce qui me marque, ce qui me frappe, et on est plusieurs dans ce cas-là, mais c'est que ça n'a pas suffi, ça ne suffit pas de dire que c'est une personne. C'est-à-dire qu'il y a toute une organisation, et c'est pour ça que les deux, l'idée de commun qui est au-delà de l'intérêt commun, une organisation pour servir cet intérêt commun. Il y a toute une organisation qui a été mise en place. C'est comme un gouvernement de ce fleuve qui a été mis en place. Une parité pour les chefs, l'un de la tribu maori, l'autre du gouvernement zélandais, un comité du bien-être du fleuve, un comité des parties prenantes, ce qui rejoint ce que disait Catherine, c'est-à-dire on organise les usages, on organise la relation que l'on a à cette entité. Et effectivement, nous, la question qui se pose à l'heure actuelle, parce que... on nous dit qu'il faut redevenir, je dirais, autochtone avec notre lien nature. Nous, on en a un autre. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à écartographier et représenter et faire admettre juridiquement, c'est une protection de nos interrelations, à mon sens, de notre intérêt commun, de notre interdépendance. Ça ne passe pas forcément par des droits de la nature, mais peut-être des droits de nos interrelations et d'organisations qui fassent qu'on représente cette interrelation. Voilà. C'est plutôt ma position. Oui. Mais ça va chercher effectivement dans la représentation des biens communs, des communs si on s'organise, autour d'entités, autour de bassins de vie, autour d'écosystèmes, oui.
On voit bien que la question est pluridisciplinaire, parce qu'on pourrait mentionner aussi l'économiste Éloi Laurent, hein, qui travaille aussi ces questions de biens communs, avec une autre façon, comme vous le disiez, Judith Rochefeld, de penser la façon de préserver, de protéger, mais pas forcément en donnant des identités ou juridiques ou autres. Joël Zask, le droit au paysage, je crois que c'est récemment reconnu hein, dans l'urbanisme.
En fait, c'est un projet de l'UNESCO, mais qui est très ancien, enfin qui a une trentaine d'années. Et donc, les choses ont avancé peu à peu. Et c'est intéressant, ce droit au paysage, effectivement, parce que ça mêle toutes sortes d'éléments. Et je crois que c'est précisément le caractère trans ou pluridisciplinaire et pluriactivité, plurifonctionnel de toutes ces affaires-là qui donne au débat actuel sa richesse et sa pertinence. En l'occurrence, le droit au paysage, c'est un droit qui est à la fois un droit d'usage, ou plus exactement un droit d'usage à mettre vraiment au pluriel. C'est un droit esthétique, c'est un droit à la jouissance esthétique, c'est un droit à bénéficier aussi de cette relation forgée par les générations passées, c'est-à-dire qui a été transmis un peu comme l'histoire de la vigne et du laboureur de la vigne et de ses enfants. Enfin, c'est-à-dire que le paysage est aussi, dans l'existence personnelle ou dans l'existence d'un groupe local porteur finalement de toute une histoire partageable. Et le paysage est précisément la marque partage des générations successives. Donc, et justement, les gens qui perdent leur paysage dans les méga-feux perdent aussi le rapport avec un passé qu'ils ne pourront plus transmettre à leur tour. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus dire « Tiens, je vais t'amener là où ton grand-père, etc. » Donc ça, c'est très, très problématique. Et puis, c'est aussi un droit du futur, c'est-à-dire un droit, justement, de transmission, un droit, à bénéficier ici et maintenant de conditions d'ancrage de ces activités ou de marquage en quelque sorte individuel par une contribution singulière de l'histoire à venir en fait et de la communauté future. Donc c'est très douloureux ça aussi.
Catherine.
Et donc voilà, je pense qu'il y a tous ces éléments qui se mêlent effectivement dans le droit au paysage. Le paysage ici n'étant pas réductible à une image, un tableau, disons quelque chose qui serait face à nous, un peu comme une représentation. Et beaucoup quand même de textes, notamment en esthétique, et voilà, qui ont tendu à nous faire croire que le paysage est une représentation de la réalité. Ce qui est intéressant aujourd'hui, grâce à des géographes comme Jean-Marc Besse et d'autres, ce qui est intéressant, c'est justement qu'on a pensé le paysage comme faisant partie de nous. Et donc, la destruction du paysage, c'est une destruction aussi d'une partie de vous-même, en fait. Et donc, le paysage a des aspects subjectifs, évidemment, qui tiennent à tout ce que j'ai dit, mais il est aussi relatif à des variables tout à fait concrètes et physiques, même géographiques, chimiques, environnementales, climatiques, etc., qui entrent en ligne de compte, évidemment, et qui, dont on peut témoigner.
Catherine Larrère, vous voulez
dire
quelque chose ?
Oui, je voulais juste, dans le sens de ce que disait Joël, rappeler que les premières décisions de protection de la nature en France sont absolument contemporaines de ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire c'est la deuxième moitié du 19e siècle. Mais alors qu'aux États-Unis, on va protéger avec la formation des parcs que tout le monde connaît, Yellowstone et Yosemite, de protection d'une nature réputée vierge et intouchée, ce qui n'était pas vrai, mais c'est dans l'idée qu'elle est une wilderness, donc une nature première, qu'elle est protégée, alors qu'en France, c'est sous le Second Empire, c'est dans les années 1860, qu'on protège ce qu'on appelle des séries paysagères. Et la première décision qui est prise, c'est pour une protection de la forêt de Fontainebleau. Et c'est en lien avec un mouvement, enfin une campagne qui est faite à la fois, c'est effectivement une raison esthétique, hein, c'est les pannes de Barbizon, on découvre Fontainebleau, mais c'est aussi des courants républicains et socialistes, et en particulier George Sand, qui va faire une campagne active pour qu'il y ait un accès populaire à une forêt de Fontainebleau préservée. Donc on est bien là, l'idée que on ne protège pas du tout une nature qu'on veut laisser à son seul développement, on protège une relation, et une relation dans laquelle on introduit, ça Serge Audier l'a bien montré dans La société écologique et ses ennemis, dans laquelle il y a une forte affirmation démocratique.
Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, à l'échelle planétaire, il ne reste que 2 à 5% de zones totalement vierge de tout contact avec les hommes, ça veut dire sur 500 ans. Normalement, c'est ça. Hein,
on pourrait citer Tintin et dire que les endroits où la main de l'homme n'a pas mis le pied, il n'y en a plus beaucoup.
Alors, dernier... Oui, vous vouliez dire, non, Joël Zask.
Juste un mot, c'est en ce qui concerne justement l'invention des parcs naturels américains. Ce qui est quand même intéressant, je trouve, pour éventuellement relire une partie de cette histoire, c'est que l'inventeur, à ma connaissance, le premier qui émet l'idée de la création d'un parc naturel, c'est un peintre qui s'appelle Kathleen et qui va bientôt être rejoint par d'autres et qui rêve d'une protection de la nature et des bisons et des Indiens qui vivent sur ces terres. Et donc, en fait, il l'embrasse. Pourquoi ? D'ailleurs, parce qu'un beau jour... Alors, c'est un peintre qui est connu pour ses portraits d'Indiens, d'Amérindiens, et ses paysages qui sont de toute beauté, et qu'il peint comme s'il était sur un avion, enfin, en tout cas, d'en haut, une vue d'en haut, qui est très, très impressionnante. Et donc, un jour qu'il rejoint son lieu de peinture, il découvre la carcasse d'un bon millier de bisons qui ont été assassinés pour le prélèvement de leur langue par des Indiens qui échangent ces langues contre des barils d'alcool frelaté. Donc voilà, et c'est de là c'est à ce moment-là qu'il émet il écrit une lettre et il émet cette hypothèse qu'il faudrait vraiment une protection. Mais ce qui est intéressant, c'est que la protection de la nature, c'est la protection d'un peuple. Et c'est la protection des animaux aussi. Enfin, donc, en fait, l'opposition entre l'homme et la nature n'est pas au rendez-vous à ce moment-là, en tout cas. Et là, on est en 1840.
Allez, dernier point avant de donner la parole justement au public présent aujourd'hui. C'est vraiment un point qui peut-être marque une évolution là aussi dans ces actions en justice. Judith Rochefeld, les peuples premiers partent aussi en procédure, hein, en justice, engagent des procédures pour obtenir des droits pour la mère nature. Et on pense forcément à cette plainte pour crime contre l'humanité déposée le 22 janvier 2021, donc cette année, au tribunal pénal international de La Haye par le cacique Raoni notamment. Et donc une plainte qui vise le président Bolsonaro et certains de ses ministres. Là, il s'agit du tribunal pénal international de La Haye. Est-ce que c'est une première, puisqu'on disait que finalement, jusque-là, rien n'avait été intenté, ou il n'y avait pas de tribunal international spécifique pour l'environnement?
Oui, il n'y a pas de tribunal dédié. Dans le contexte du multilatéralisme actuel, je pense que la question serait difficile à mettre sur la table. Donc, beaucoup de tentatives se font devant des tribunaux internationaux qui n'étaient pas tournés vers ces problématiques prioritairement et que l'on essaye de tirer vers cette problématique. On a évoqué les réfugiés climatiques. Hein, je ne voudrais pas qu'on pense qu'il n'y a pas d'action, par exemple, pour les réfugiés climatiques. C'est aussi une catégorie de victimes qui a été reconnue internationalement et qui va l'être de plus en plus. Donc il y a cette idée qu'on fait rentrer dans la notion de réfugié qui n'était pas taillée pour la réfugiée climatique. Donc voilà, on essaye de tirer, c'est aussi pareil devant la Cour pénale internationale, avec l'idée que des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre pourraient impliquer l'écosystème du groupe en question que l'on cherche à éradiquer. Ça a été fait sur le plan culturel. On a tiré de l'attaque à ces groupes ou de l'attaque à une population le fait qu'on avait aussi voulu détruire leur culture. Là, on va tirer vers... On a aussi voulu détruire leur écosystème. Donc, de toutes parts, sur des cours internationales européennes ou régionales, interaméricaines, par exemple, il y a aussi la Cour interaméricaine des droits de l'homme ou la Cour européenne des droits de l'homme qui sont extrêmement sollicités sur ces questions. Et on va tirer du droit au respect de la vie privée, par exemple, ou du droit à la vie devant la Cour européenne des droits de l'homme. Les 6 enfants portugais dont je parlais vont tirer un contentieux vers les questions climatiques, alors que c'était des droits qui n'étaient pas des droits environnementaux. Alors c'est vrai qu'on essaye de plus en plus de faire reconnaître les droits environnementaux jusqu'au droit à vivre dans un climat stable, hein, qui est un droit qui est en train d'être travaillé devant pas mal de tribunaux. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, on tire des crimes, même des crimes de guerre ou des crimes très extraordinaires, très exceptionnels en gravité, on essaye de le tirer vers l'environnemental. Et puis il y a cette discussion sur l'écocide, l'idée du meurtre de la maison, qui a fait un flop chez nous, puisque c'était l'une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat de le reconnaître de façon très, 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 très large, ce qui a fait peur à beaucoup et qui a, en conséquence, été, je dirais, reconnu non pas à une échelle internationale, parce que de même, ça demanderait de se mettre d'accord sur cette question, mais à une échelle nationale et, je dirais, dans une version qui ne fait que reprendre en étendant un petit peu, mais avec des conditions très difficiles, un dommage de 10 ans, grave, enfin avec une démonstration très difficile, qui n'a fait que reprendre une infraction qui existait déjà pour la mettre sous ce label. Oui. Je dirais que c'était une version minimale.
Alors juste, quand vous dites « on », on imagine c'est un collectif international d'avocats, de juristes, de magistrats. Ah, vous travaillez tous en connexion ou pas?
Non, en fait, là, je disais le « on », on a reconnu, c'est
on
la France.
Générique.
C'est le législateur français, après la Convention européenne. Et par ailleurs, sur l'écocide, non, il y a beaucoup de courants, en fait, sur l'écocide. Donc,
ça serait une table ronde en soi. Je voulais juste signaler que, il y a le Brésil, mais il y a aussi ce qui se passe en Guyane française, où on l'a vu à propos de la Montagne d'Or, et où il y a des communautés autochtones qui sont extrêmement atteintes, en particulier par leur paillage, la recherche d'or, qui atteint leur territoire et leur santé à eux. Donc je crois que le caractère, l'impossibilité de séparer, et surtout pour des communautés autochtones de l'identité desquelles ça fait partie, la possibilité de séparer ces communautés de leur milieu de vie me paraît extrêmement nette.
Alors, je vous propose de prendre quelques questions dans la salle, si vous avez des questions. Alors, n'hésitez pas, profitez-en, au contraire. Il y a des... Parce qu'avec les spots, on vous voit pas forcément, on vous voit mieux, effectivement. Alors, est-ce que quelqu'un a... Oui.
Bonjour.
Ça marche.
J'ai une question sur... un petit peu en amont, en fait, de ces procès-là. Quand on travaille pour une entreprise et que justement on se dit bon, on est dans une entreprise plutôt sur des choses assez polluantes qui peuvent être attaquées justement et qu'on est en train de changer de modèle, comment est-ce qu'on, quand on change de modèle et qu'on, par exemple, on pourrait se diriger vers des biocarburants, on fait face au fait que la prochaine étape, c'est que les biocarburants ont aussi un impact néfaste sur l'environnement, sur la culture de soja, mais qui n'impacte pas les Français. Les Français veulent voir du biocarburant pour, parce que ça va permettre d'aller vers une transition énergétique, mais ça a un impact sur d'autres pays. Et comment est-ce qu'en fait on prend ce type de décision de changer de produit, par exemple, sachant qu'en fait on va polluer un autre espace et qu'on va en plus avoir un impact sur les générations futures. Même chose en fait sur les panneaux solaires, qui aujourd'hui on a très peu de solutions de recyclage. Donc voilà, en fait, c'est une interrogation très sur les entreprises. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision pour arrêter de polluer sans polluer pour les générations futures et en fait éviter de se retrouver en justice aussi? Merci beaucoup.
Qui veut répondre?
Peut-être que je peux répondre sur le principe et peut-être que Julie sera beaucoup plus précise que moi, qui ne le suis pas, étant philosophe. On n'est pas surdoué par la précision. Je crois que la question que vous posez est très représentative de à la fois de la prise de conscience que représente notre situation écologique actuelle et de sa difficulté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Ce qu'on a appris autour des questions environnementales, c'est que les dégradations actuelles, changement climatique, bon, restons-en au changement climatique, sont des conséquences involontaires. Personne n'a voulu augmenter, n'a visé l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, c'est les conséquences involontaires et à l'époque non connues de d'autres finalités. On cherchait à développer l'industrie, etc. Et la majorité, l'immense majorité de dégradations écologiques dont nous souffrons sont de cet ordre des conséquences involontaires. C'est pour ça que les questions de responsabilité sont très difficiles parce que elles ne sont pas immédiatement assignables à une intention de faire le mal. Alors, c'est une responsabilité beaucoup plus diffuse et beaucoup plus compliquée et qu'effectivement, là où on voit une solution, il faut aussi réfléchir aux conséquences involontaires ou aux effets indirects, avec ce qui a changé par rapport à il y a 100 ans ou même 50 ans, c'est que, d'une part, nous savons que plus nous sommes puissants techniquement, plus nos actions ont des conséquences involontaires qui peuvent être pires que ce qu'on visait. C'est ce qu'on voit avec le changement climatique. Et donc, nous le savons. Et donc, nous savons que nous ne pouvons pas adopter une solution sans réfléchir aux conséquences. Et l'exemple que vous avez donné des biocarburants, vous ne m'avez sans doute pas vu, mais j'ai fait un peu la grimace, parce que les biocarburants, ça a énormément d'effets collatéraux douteux. Par exemple, il y a des problèmes de rivalité sur les usages du sol. On sait que, on dit toujours la Chine, mais d'autres pays achètent de grandes surfaces de terre pour y planter des biocarburants au détriment de
l'alimentation de la sécurité pour la population
alimentaire. Oui, il y a quantité de choses comme ça. Donc je crois que moi personnellement, je vous dirais, il y a aucune réponse évidente. Il y a toujours à réfléchir sur ce qu'on vise, mais aussi ce qu'on risque de faire Alors, je ne dirais pas en conséquence involontaire, parce que ça me paraît difficile de dire que c'est complètement involontaire, mais je dirais en effet collatéraux.
Judith Rochefeld, est-ce que on est à l'aube peut-être de voir des procédures contre justement des entreprises qui produisent du biocarburant, contre les énergies renouvelables, etc.
Oui, ça c'est possible, et notamment si elles se réclament d'un comportement écologique vertueux et que ça n'est pas le cas, alors qu'elles en ont la connaissance, par exemple. Donc ça, on a des exemples. Alors, pour revenir à cette question, elle pose... alors, il y a vous m'avez dit l'amont. L'amont, c'est que certains jeunes diplômés, ont une défiance par rapport à certaines entreprises, que ça s'est acté. Et je dirais quand même que les études sociologiques montrent que c'est ceux qui ont le choix de travailler pour une entreprise ou une autre qui font des arbitrages. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc ça, c'est l'amont. Après, sur peut-être le point, si j'ai bien compris votre question, de être un employé d'une entreprise, ne pas être d'accord avec son comportement, c'est ça que je comprenais. C'est que là, il y a à travailler, c'est le cas actuellement, hein, sur l'alerte environnementale, qui n'était pas une tradition ni syndicale ni de l'alerte salariale. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Oui. Mais salariés avec des comités qui fonctionneraient, notamment ceux...
La loi qui protège les lanceurs d'alerte, c'est ce que vous disiez, Catherine, parce que vous n'aviez pas le micro devant la bouche.
Oui, non, mais c'est parce que je...
Et le dernier point pour répondre à votre question, après vous me direz si c'était le sens de votre question. Le dernier point, c'est que dans les très grandes entreprises qui ont leur siège social en France, 5 000 salariés, 10 000 à l'étranger, elles ont désormais à endosser un devoir de vigilance, et un plan de vigilance à annuel, où elles énoncent. Elles cartographient les risques de leur activité et doivent mettre en face, c'est encore très mal appliqué, mais doivent mettre en face les mesures de vigilance raisonnables qui pourraient venir juguler ces risques. Et dans ce montage du devoir de vigilance, qui est une première, hein, la France a été tout à fait un pays précurseur sur cette question, c'est en train d'être discuté dans la dernière version en Europe, ça a essaimé en Europe, et dans cette version, si on allait jusqu'au bout du système, il y aurait des procédures d'alerte. Voilà. Donc on aurait... Avec cette cartographie, encore une fois, tout est conditionnel parce que ça date de 2017 et que ça n'est pas encore totalement effectif. On aurait des procédures d'alerte, on aurait du suivi de la cartographie des risques et des mesures de vigilance raisonnables. Je synthétise, mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et ça ne concerne que des entreprises de taille importante avec un siège social en France, mais peut-être... en Europe bientôt.
Oui, vous avez partiellement répondu à la question, mais c'était plus dans le processus de décision quand en fait l'entreprise a déjà conscience qu'il faut changer quelque chose et qu'elle va prendre certains chemins et prendre certaines décisions sur certains nouveaux produits, sur des développements. En fait, et je pense que vous avez répondu, c'est qu'il faut bien cartographier les conséquences involontaires et
comment l'accompagner, en fait, c'est ça. Ce que vous dites, c'est comment l'accompagner, peut-être, pour qu'elle évite d'être en porte-à-faux et en potentiellement subir une procédure en justice si elle n'a pas pensé à tous les dommages collatéraux, c'est ça.
En porte-à-faux, et comment aussi ne pas céder à l'immobilisme en voyant le fait de créer un autre problème en pensant en résoudre un.
Mais je crois qu'il faut se dire qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parfaite. Il y a des arbitrages. Si on regarde, alors on va parler des biocarburants, mais si on regarde les éoliennes, moi j'entendais la semaine dernière Jean Jouzel dire « je suis à fond pour les éoliennes ». Moi je demande qu'on fasse une enquête sur les éoliennes, parce qu'il n'y a rien qui aille dessous. Donc il y a des arbitrages à faire et c'est des questions de justice, mais c'est aussi des questions politiques, finalement.
Peut-être que juste pour les entreprises, on peut mentionner que des entreprises qui voudraient être accompagnées peuvent l'être aujourd'hui par l'ADEME, par exemple. Il y a quand même des organismes qui aujourd'hui aident à prendre la mesure, voilà, à faire une cartographie. D'autres questions ?
Si je peux juste... Pardon.
Allez-y, Judith Rochefeld.
Juste ajouter, prolonger la question, c'est que la même interrogation pèse sur les épaules du gouvernement. C'est-à-dire comment, et c'est aussi l'une des questions de modernisation de la démocratie représentative, voire participative, c'est comment on intègre des enjeux qui, en politique, hein, comment on les représente, comment on intègre des enjeux de long terme et environnementaux qui n'ont pas été intégrés dans nos processus de décision jusqu'à présent à ce niveau-là. Voilà. C'est aussi une question qui se pose pour notre démocratie représentative, voire participative.
Allez, une dernière question. Non, on a été très, très complète, c'est vrai. Bon, alors du coup, je me tourne vers vous, toutes les trois, si vous voulez ajouter quelque chose. Forcément, on a bien compris qu'il y a de nouvelles pages qui s'écrivent aujourd'hui, hein, à la fois en matière de droit, en matière de société, d'habiter la terre autrement, et donc la notion aussi de bien commun. Enfin, on a parlé de beaucoup de choses. Est-ce que vous sentez-vous plutôt positive ou négative aujourd'hui face à ces lendemains ? Catherine Herrère.
Ni l'un ni l'autre. J'ai envie de dire, justement, non, mais je veux dire, la situation est tellement complexe. On sait tellement qu'il n'y a pas une voie claire, il n'y a pas un niveau unique, qu'il y a des arbitrages à faire, qu'on ne peut pas dire je suis optimiste ou je suis pessimiste. Et, bon, on ne va pas revenir au pessimisme de l'intelligence et à l'optimisme de la volonté, enfin, si vous voulez.
Sentir que dans l'opinion publique, il y a quand même une quête de comprendre, une quête d'être informé, que le sujet avance quand même.
Voilà, le sujet avance. Alors moi, j'ai été introduite comme ayant publié avec mon mari il y a un an Le pire n'est pas certain, qui était un livre de critique de la collapsologie. Moi, donc, de l'idée que tout est foutu, hein, de l'idée que l'effondrement est inéluctable. Moi, ce qui me frappe, c'est une sorte de recul de cette conviction que on est impuissant, on peut rien faire. Et bon, c'est peut-être parce que je sors d'une semaine de débats et de discussions, mais les questions maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas... qu'est-ce qu'on peut croire, mais c'est qu'est-ce qu'on fait. Et ça, ça me fait plaisir.
Et ça commence à bouger, on le voit quand même.
Hein, et ça commence à bouger. Et la question, oui. La question a toujours été posée. Hein, qu'est-ce qu'on fait ? Mais ce n'est pas sous condition de désespoir. Il y a une ouverture.
Donc vous êtes positive.
Voilà.
Oui, quand même. Allez, Joël Zask.
Oui, positive, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et je crois que plus on défriche ces questions-là, et plus on s'aperçoit que... alors, je ne vais pas citer le colibri, parce qu'il en fait vraiment trop peu, mais, mais quand même, en tant que personne individuelle, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et que par ailleurs, écologiser la démocratie, c'est aussi, d'une certaine façon... redécouvrir la grammaire de l'action collective et de l'action individuelle sur le terrain. Et en l'occurrence, vraiment, je pense que ce que découvrent beaucoup de gens, c'est qu'effectivement, il y a à la portée de chacun, dans des formes d'autogouvernement, en fait, des gestes qui sont à la fois bons pour autrui et bons pour eux-mêmes, hein, c'est-à-dire bons pour leur environnement et bons pour leurs conditions idiosyncrasiques de vie. Donc je pense qu'effectivement, il y a de quoi... Là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un parallèle, si vous voulez, entre l'évolution des consciences individuelles face à l'importance de protéger leurs conditions de vie et l'évolution de la conscience publique, de l'opinion publique. Et quand on voit que ces deux aspects se convergent, je crois qu'ils sont en train de converger, il y a lieu d'être... est-ce que optimiste,
plus positif.
En tout cas, il y a du pain sur la planche. Oui. Voilà.
Judith Rochefeld.
Confiant,
oui. Judith Rochefeld.
Et alors moi, c'est pas du tout une question que je me pose. Optimiste ou pessimiste, je la refuse. Tant qu'on agit, il y a eu effectivement de mon poste d'observation principalement juridique, institutionnel, des points de rupture, c'est certain, c'est-à-dire un emballement de décisions qui vont dans un certain sens, ce qui me fait très peur pour voir ça par rapport à précisément le contentieux, qui n'est pas le mode normal de règlement des relations sociales, à mon sens. C'est précisément qu'on arrive à basculer de rapports conflictuels. Et je pense qu'il y a beaucoup de fractures dans la société de ce point de vue-là aussi, que l'opinion publique n'est pas homogène, qu'il y a énormément de fractures, qu'il y a énormément de niveaux de conscience très différents et de possibilités d'agir très différentes. Et que ce qui me semble vraiment à inventer de façon extrêmement urgente, c'est ce passage de rapport conflictuel, judiciarisé, vers des modes de gouvernement qui prennent en compte ces questions environnementales de façon plus pacifique. C'est pour ça que la Convention citoyenne était vraiment une expérimentation intéressante, à mon sens, pour faire cette bascule et intégrer le plus possible toute sensibilité et toute possibilité d'action dans un même but. Sinon, je crains qu'on ait une des sociétés encore plus fracturées.
Bien justement, dans cette complexité, merci à toutes les trois parce que vous nous avez permis d'être plus informés et vous nous avez donné à comprendre quand même sur ces terrains-là, inégalité environnementale et justice climatique. Je rappelle juste vos livres à chacune. Catherine Larrère, donc avec Raphaël Larrère, « Le pire n'est pas certain », essai sur l'aveuglement catastrophiste, un livre paru chez Premier Parallèle. On peut aussi citer « Les inégalités environnementales », c'était également chez le même éditeur
Non, c'était aux Presses universitaires de France.
Exactement. Judith Rochefeld, donc « Justice pour le climat, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne », c'est chez Odile Jacob. Et puis Joël Zask, « Quand la forêt brûle, pensez la nouvelle catastrophe écologique parue chez Premier Parallèle. Et bien sûr, information à retrouver sur le site de la BPI. Merci à tous. Merci vraiment.
Merci beaucoup pour ce débat, ces éclairages très stimulants en tout cas. Pour ne pas dire optimiste, puisque vous avez discuté de ce terme. Et effectivement, on avait choisi ce titre, Environnement, que faire pour demain, avec le conseiller scientifique Hervé Le Treut, qui est là dans la salle. Et donc, c'est un peu le but de ce colloque. Mais c'est vrai que cette séance est stimulante parce que ça donne des perspectives d'action aux citoyens, aux citoyennes. Et voilà. Donc, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous à 18h30 pour un tribunal pour les générations futures. On a parlé des générations futures. C'est donc dont le thème est l'économie verte est-elle une arnaque ? Et donc c'est en fait une sorte de conférence, des débats autour de cette question, mais dans une mise en scène extrêmement intéressante. On reste dans l'univers de la justice puisque c'est un procès avec une cour, président, avocate, procureur, des témoins. Et vous aurez même la possibilité de faire partie du jury qui va délibérer et qui va donner donc remettre son verdict. L'économie verte est-elle une arnaque ? Donc rendez-vous à 18h30. Merci.